France Inter.
Le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, les quartiers gangrénés par le trafic de drogue et les violences qu'il engendre avec des tirs de mortier sur la police et un immeuble incendié la nuit dernière à Béziers. Nous serons sur place. Un narcotrafic qui attire de plus en plus de mineurs. Comment les empêcher de céder aux sirènes de l'argent facile? Exemple avec une opération de prévention dans les quartiers. Dans ce journal aussi, le débat qui continue entre pro et anti-loi Duplon sur la question des pesticides. Le PDG d'une entreprise américaine obligé de démissionner après sa liaison adultère révélée sur écran géant pendant un concert. Un peu de répit après les Pyrénées pour le Tour de France entre Muret et Carcassonne. Et la météo avec une nouvelle perturbation, Magali Rochereau.
Oui Corinne, à part sur le pourtour méditerranéen où il fait beau et chaud, la majeure partie du territoire est au frais sous les averses.
Prévision complète à la fin de ce journal. Après Limoges, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le quartier de la Dévèze à Béziers qui a connu une nuit de violence. Des tirs de mortier d'artifice sur des policiers attirés dans un guet-apens. Récit de Sarah Tucherer pour Ici Héros.
Les policiers ont été appelés pour un incendie de poubelle et sur une voiture rue Jean Franco. Mais ils étaient attendus par ce groupe d'une cinquantaine de personnes. Les individus ont tiré des mortiers d'artifice sur les agents qui ont répliqué avec des lanceurs de balles de défense, puis une grenade de désencerclement. Un fonctionnaire a été touché au mollet, brûlé au deuxième degré. L'un des mortiers d'artifice a mis le feu à un appartement situé au quatrième étage. 300 personnes ont dû quitter leur logement et se mettre en sécurité dans la rue le temps que les pompiers interviennent pour éteindre l'incendie. Intervention sous la protection de la police. Aucun habitant n'a été blessé, mais 6 personnes ont dû être relogées, leur appartement ayant entièrement brûlé. Les fauteurs de troubles ont, eux, quitté les lieux sans être interpellés.
Et 11 personnes en danger ont dû être évacuées de l'immeuble en feu. D'après le commissaire Éric Laniel de la police nationale, ces violences sont une réaction à des interpellations et saisies de drogue récentes dans ce quartier central. Un narcotrafic qui emploie de plus en plus de jeunes. On estime que 10 000 mineurs sont impliqués en France. Certains ont à peine 10 ans. Un chiffre révélé cette semaine par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA. Alors que les jeunes voient dans le trafic de drogue une façon de gagner vite de l'argent, le projet Limite se déploie dans les quartiers pour casser ces clichés auprès des adolescents. Marion Aquilina.
L'objectif, c'est de déconstruire les mythes associés au trafic. Et avec ce projet, des jeunes de Sarcelles ont réalisé des vidéos.
Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ?
Hey petit ! Ça te dirait de te faire de l'argent ?
Aujourd'hui, ça concerne 10 000 mineurs, très jeunes, parfois ils ont 10 ans, recrutés sur les réseaux sociaux et tous ont un profil fragile, selon le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Nicolas Pris.
Ce sont des jeunes garçons en échec scolaire, confrontés à un univers où le deal est très banalisé et qui ont malheureusement pas les cordes de rappel que peuvent constituer la famille. Ils sont la proie idéale, ils sont violentés.
En plus d'être dangereux, le trafic rapporte peu d'argent. C'est le message véhiculé par les acteurs du projet. Justice, école, mairie, association et bien sûr la police. Célia Bobet est commissaire divisionnaire.
En employant des mineurs, on va avoir à les payer très très faiblement. On va même pouvoir ne pas les payer. Et rapidement, un jeune peut se retrouver pris dans une logique d'endettement, de traite des êtres humains et d'esclavage, puisque le jeune doit des heures de travail au réseau sans devoir être payé, puisqu'il doit rembourser sa dette.
En revanche, la mission reconnaît ne pas savoir combien d'adolescents ont éviter les trafics grâce au projet, malgré les 5 ans d'expérimentation et un budget de 6 millions d'euros.
Une expérimentation élargie cette année à 33 collectivités. Je souhaite un compromis clair dans les 3 mois, c'est l'appel d'Amélie de Montchalin. Dans la tribune dimanche, la ministre des Comptes publics défend les propositions budgétaires présentées par François Bayrou mardi dernier, malgré les nombreuses critiques exprimées depuis par les oppositions et les syndicats. La pétition contre la loi Duplon pourrait bien dépasser le million de signatures aujourd'hui. Le site de l'Assemblée nationale n'a jamais vu une telle affluence, ce qui pourrait ouvrir la voie à un débat sur la loi dans l'hémicycle à la rentrée. Débat symbolique puisqu'il ne sera pas suivi d'un vote, mais qui exprime une vive opposition. La loi prévoit entre autres la réintroduction d'un insecticide néonicotinoïde. Pour le sénateur LR, Laurent Duplomb, à l'origine de la proposition de loi, c'est un faux débat. Ce pesticide n'est pas dangereux, dit-il.
La porte-parole de la commission santé de la Commission européenne et de l'EFSA a dit à François de Rugy et ses publics anciens ministres de l'Environnement que l'acétamipride utilisé dans les conditions prescrites n'est ni dangereuse pour l'homme, ni dangereuse pour l'environnement, ni dangereuse pour la biodiversité. C'est en France que nous avons un discours totalement différent. Ça veut dire en clair qu'on interdit des choses chez nous alors qu'elles sont autorisées de l'autre côté de la frontière. Faut-il vous rappeler que 75% des fruits sont importés en France ? Eh bien, nous importons ce que nous nous interdisons de produire en France.
Faux, réagit le président d'Alerte des médecins sur les pesticides, le docteur Pierre-Michel Perrineau.
On a deux expertises collectives, l'une de l'INRAE et l'autre de l'INSERM, qui montrent pour l'une que les pesticides ont contaminé tous les milieux, avec des conséquences déjà visibles à court terme. On a un effondrement de la biomasse des insectes volants de 70 à 80% sur l'ensemble des études. Là, aujourd'hui, partout en Europe. Et l'autre expertise de l'INSERM montre que chez les professionnels, la liste des maladies dues aux pesticides ne cesse de s'allonger. Et elle montre aussi qu'il y a une contamination considérable de la population, c'est-à-dire tout le monde est exposé.
Les propos recueillis par Augustin Arrivé. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est favorable à la tenue de ce débat. Elle défend cependant un texte important qui va permettre, je cite, de sauver un certain nombre de nos agriculteurs. Elle était l'invitée de France Info. Éradiquer les mauvaises herbes envahissantes sans pesticides. Eh bien justement, c'est possible. Sur l'île de Ré, on teste le retour à la traction animale. Un projet financé grâce à l'écotaxe. Reportage avec ses chevaux de trait sur les dunes. Hugo Marceau, d'ici La Rochelle.
Au bord de la route qui relie le Bois-Plage à Sainte-Marie-de-Ré, Éole, une jument boulonnaise de 11 ans et Kézac, un jeune trépois de 20, entraîne une charrette métallique où se tient Caroline, prestataire en traction animale.
Il faut imaginer que les chevaux, c'est notre tracteur et vous avez l'outil juste derrière. Donc là, ici, c'est un rouleau brise-fougère.
Aller après retour dans un îlot de fougères d'une cinquantaine de mètres de long, l'attelage écrase la verdure sur son passage.
Comme vous pouvez voir au sol, ici, on est sur de la dune grise.
Anaïs Barbarin, directrice de l'environnement de la communauté de communes de l'île de Ré.
Donc ça, c'est un habitat protégé au niveau européen. Et le problème qui se pose, c'est qu'on a une espèce qui s'appelle la fougère aigle, donc on voit ici, qui est en train doucement de coloniser cette dune grise. Et une fois que la fougère s'est installée, comme on peut le voir un petit peu plus haut, en fait, elle est très dense et il n'y a plus rien qui pousse en dessous.
Avec cette technique, la repousse est plus lente qu'en arrachant ou fauchant à main nue. La traction animale permet également de s'aventurer sur des terrains sensibles comme celui-ci.
L'objectif de travailler avec des chevaux, c'est de pouvoir accéder à des habitats naturels sur lesquels ça supporterait pas l'écrasement par des engins mécaniques.
Et l'île de Ré compte sur ses chevaux polyvalents pour réaliser des tâches agricoles variées comme l'arrachage de chênes verts, une autre espèce proliférante.
Et si vous êtes en vacances sur l'île de Ré, vous risquez de les croiser, les chevaux seront là tout l'été. Viré pour avoir trompé sa femme, ça se passe aux États-Unis, c'est ce qui est arrivé à Andy Byron, ce patron d'une petite entreprise spécialisée dans la tech, est devenu la risée des réseaux sociaux, filmé avec une femme qui n'est pas son épouse pendant un concert de Coldplay. Devenu viral, la vidéo lui a donc coûté son poste, Louis Glory.
Nos dirigeants sont censés fixer des normes en matière de conduite et de responsabilité, et ces normes récemment n'ont pas été respectées. Voilà ce qu'écrit la start-up new-yorkaise Astronomy en annonçant la démission de son patron Andy Byron. Quelques jours plus tôt, le dirigeant était à un concert de Coldplay dans le Massachusetts en compagnie d'une collègue, tous les deux enlacés, alors que le chanteur Chris Martin s'apprêtait à jouer un morceau. Regardez ces deux-là, s'amuse le musicien alors que le couple apparaît sur un écran géant et tente immédiatement de se cacher de la caméra. Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides et je ne suis pas très sûr de ce qu'il faut faire. Problème, Andy Byron est effectivement marié à une autre femme, son identité est révélée et les images détournées à l'infini envahissent les réseaux sociaux. Un rappel de plus qu'Internet et vie privée ne font pas toujours bon ménage et que ces affaires de relations au sein de l'entreprise font régulièrement tomber des têtes. Depuis 2012, les patrons de McDonald's, Intel ou Best Buy avaient eux aussi dû quitter leur poste.
À Los Angeles, le conducteur de la voiture qui a foncé sur un groupe de personnes est inculpé pour violence volontaire avec une arme potentiellement mortelle. 30 personnes ont été blessées, dont 7 dans un état critique. L'homme de 29 ans a percuté la foule devant une boîte de nuit dont on lui aurait refusé l'entrée, rapportent plusieurs médias américains. En Syrie, la ville de Souaïda, dans le sud du pays, a retrouvé un calme relatif ce matin. Les affrontements entre druzes et sunnites des tribus bédouines on fait plus de 1000 morts en une semaine d'après le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis le pape Léon XIV appelle à mettre fin à la barbarie de la guerre à Gaza et à, je cite, l'usage aveugle de la force, il l'a dit à la fin de la prière de l'Angélus. La République tchèque veut définitivement tourner la page du communisme, interdite désormais la faucille et le marteau, au même titre que la croix gammée nazie. La loi promulguée par le président libéral et pro-occidental interdit toute promotion du communisme dans l'espace public à Prague. Alexis Rosenzweig.
Le texte, initié par des historiens notamment, prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans pour toute personne qui crée, soutient ou promeut des mouvements nazis, communistes ou autres, qui visent manifestement à supprimer les droits de l'homme et les libertés. Katarzyna Konieczna est l'actuelle présidente du Parti communiste.
Le Parti communiste tchèque a toujours respecté l'ordre constitutionnel, ce qui a été confirmé à chaque fois qu'on a voulu l'interdire. Il s'agit d'une nouvelle tentative pour museler les critiques, cette fois par ce gouvernement asocial de censure et pro-ukrainien.
Pour les élections législatives d'octobre, les communistes viennent de s'allier aux sociodémocrates. Difficile de dire dans quelle mesure cette réforme législative va encombrer ou non les tribunaux. Dans un pays où le Parti communiste arbore encore une étoile et où la jeunesse communiste brandit la faucille et le marteau, deux symboles désormais potentiellement passibles de poursuites à Prague, où ce Parti communiste a gouverné sous la férule de Moscou entre 1948 et 1989 avec son lot de victimes et d'injustices. Le président tchèque a promulgué dans le même temps une autre loi visant à indemniser ceux qui ont été harcelés et parfois forcés à l'exil par ce régime. Prague, Alexis Rosenzweig, France Inter.
Muret-Carcassonne, c'est le parcours de la 15e étape du Tour de France aujourd'hui. Une légère accalmie entre les Pyrénées et le Mont Ventoux après l'étape d'hier et l'abandon cruel de Remco Evenepoel. Ce devrait être plus tranquille aujourd'hui, Nicolas Pironnet. Sur la moto de Radio France, les coureurs viennent de s'élancer.
Oui, départ imminent, hein, sous le soleil et la chaleur, plus de 30 degrés à Muret. Le contraste est assez saisissant, vous en parliez, après la brume des Pyrénées et les visages extrêmement marqués qui ont défilé hier soir à Superbagnères. Ça va être un peu plus tranquille, c'est vrai, aujourd'hui. Quoique, on oublie la montagne, c'est vrai, mais ça devrait quand même être intense, hein, parce que demain déjà c'est repos, parce que l'étape est loin d'être plate jusqu'à Carcassonne. Il y a 3 difficultés et donc des chances pour une échappée victorieuse. Et puis c'est un peu, quand on regarde la suite des réjouissances, c'est un peu la dernière chance, hein, peut-être pour une victoire française sur ce Tour de France. Donc il y aura de la bagarre sans doute d'entrée de jeu pour se glisser dans la bonne échappée. Celui qui devrait passer une journée plus tranquille, en revanche, c'est a priori Tadej Pogacar, après avoir tué le suspense dans les Pyrénées. Son premier objectif du jour sera d'éviter la chute. Le départ fictif dans quelques minutes maintenant, le départ réel de cette 15e étape à 13h30.
Merci Nicolas Perronnet au micro et Alexandra Bergel à la technique et au guidon de la moto. Elle confirme son exploit de Roland-Garros. Loïs Boisson, demi-finaliste surprise à Paris, se hisse cette fois en finale du tournoi de tennis de Hambourg. L'occasion pour la joueuse de 22 ans de remporter, ce sera demain, son premier titre sur le circuit WTA. Et puis après l'échec des Françaises hier soir en quart de finale de l'Euro de football, battue par l'Allemagne, on connaît le tableau des demi-finales, Italie-Angleterre et Espagne-Allemagne. La finale, ce sera dimanche prochain à Bâle. Si vous avez toujours rêvé de visiter un squat d'artistes, le 59 rue de Rivoli, tout près du Louvre, transformé en résidence pour accueillir peintres, sculpteurs et plasticiens, ouvre ses portes jusqu'à ce soir. Vous ne pouvez pas rater sa façade façade entièrement décorée sur 6 étages. Le bâtiment expose les travaux d'une trentaine d'artistes. Visite guidée avec Julien Baldacchino.
Des peintures, de la sculpture, de l'installation et même des marionnettes, l'exposition explore ce qu'est une œuvre idéale pour les 30 résidents permanents ou temporaires du lieu. Et elle donne des pistes de réponse, selon la coordinatrice du 59 Rivoli, Sophia de Portales.
Une œuvre d'art, au début, c'est juste une idée d'un artiste comme ça, tout seul par lui-même. Et au fur et à mesure, ça va devenir une œuvre d'art. Et en fait, à quel moment ça devient une œuvre d'art? On n'a pas directement la réponse. On peut scanner des QR codes qui nous racontent par la voix des artistes directement ce qu'ils ont voulu dire en faisant, en créant.
C'est aussi une invitation à emprunter les escaliers qui montent dans les étages et à rencontrer les artistes en vrai dans l'univers très personnel de leurs ateliers. Stéphanie Ledroit est l'une de ces artistes.
Dans nos ateliers, c'est nos espaces de travail. Donc en fait, on a plein d'œuvres, on a plein de choses, on a notre matériel. Donc en fait, les gens voient quelque chose d'entier. Ils nous voient nous aussi. Alors que là, ils voient d'abord l'œuvre qui est éclairée différemment, qui est vraiment mise en valeur. Ce qui fait que c'est intéressant justement quand ils arrivent dans nos ateliers, parce qu'ils ont déjà vu l'œuvre en fait sous la forme de l'exposition.
Pour inclure tous les publics dans l'exposition, une œuvre participative est également créée. Chacun et chacune peut y exprimer ce que serait son œuvre idéale.
Et on rappelle l'adresse 59 rue de Rivoli. Attention aux orages, 21 départements de l'Est de la France sont en vigilance orange. Un œil sur le temps de ce dimanche.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Corinne.
L'instabilité gagne du terrain.
Oui, cet après-midi, le soleil ne brille plus que sur les bords de la Méditerranée. Du côté du sud-ouest, le ciel se couvre franchement et partout ailleurs, des averses qui sont parfois orageuses en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, ainsi que du Massif central jusqu'aux Pyrénées et au sud des Alpes. Mais c'est sur la Côte d'Or, la Haute-Marne et toute la Lorraine que les orages s'annoncent les plus marqués cet après-midi, avec du vent fort, de la grêle et des impacts de foudre. Quand ce soir et cette nuit, ils seront attendus autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes à surveiller également.
Et côté température, c'est contrasté.
Oui, Météo France prévoit 20 à 25 degrés de la Bretagne au Poitou-Charentes et jusqu'au Hauts-de-France. Le mercure passera sous les 20 degrés à Brest. Il baisse aussi de 3 à 4 degrés autour de Paris et en Touraine. Comptez 24 à 29 degrés du Grand Est à l'Aquitaine et 26 à 31 partout ailleurs. Près de la Méditerranée, la chaleur résiste encore avec 30 à 32 degrés au meilleur de l'après-midi.
Merci Magali Rochereau.